7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi, du nord au sud. Et à Paris, vous nous écoutez depuis le changement d'heure à midi 10, heure de Paris. Donc 10h10, temps universel. Bien sûr, pour les autres, rien ne change. Aujourd'hui, le sucre dans tous ses états, c'est l'aliment qui évoque depuis des siècles la douceur, le plaisir, qui a longtemps été rare dans les assiettes. Souvenez-vous, on disait « si tu vas en prison, je t'apporterai des oranges hein ». C'est bien ce goût sucré que l'on ressassait. Il est consommé essentiellement pendant longtemps sous forme de fruits ou de miel. Mais depuis quelques dizaines d'années, avec l'explosion de pathologies mondiales comme le diabète ou l'obésité, eh bien le sucre est régulièrement pointé du doigt avec les aliments gras. Il faut dire que la consommation de sucre, autrefois très raisonnable, n'a cessé d'augmenter partout dans le monde. Plusieurs enquêtes parlent désormais de civilisation du sucre. Alors comment s'est fabriquée cette société en désir permanent de sucre? Quel est le rôle de l'industrie agroalimentaire, notamment américaine? Le lissage des goûts sucrés touche-t-il désormais tous les continents, y compris les pays où les habitudes alimentaires ne comportaient pas de dessert, comme en Asie ou en Afrique subsaharienne? Eh bien, on va en discuter avec nos invités, le journaliste Bernard Pellegrin, qui publie « Sucre, une enquête sur l'autre poudre » aux éditions Talendier. Bonjour Bernard Pellegrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et un industriel courageux, Alexandre Villegrain. Bonjour.
Merci, bonjour.
Vous êtes PDG du groupe français Somdia, qui est un géant de l'agroalimentaire en Afrique. Vous êtes aussi présent d'ailleurs dans l'océan Indien avec la canne à sucre de La Réunion. Vous produisez, vous commercialisez ce que l'on appelle des denrées de base.
Absolument.
Du sucre, de la farine, des œufs, mais aussi d'ailleurs de l'alimentation pour les animaux. Et vous nous direz comment vous percevez le débat actuel à partir du marché africain, notamment l'Afrique centrale où le sucre génère énormément d'emplois. Et quant à vous, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde, dites-nous quelle est votre relation aux aliments ou aux boissons sucrées. Bien sûr, on ne les oublie pas, les fameux sodas. Que constatez-vous dans l'évolution des comportements alimentaires? Alors bien sûr, il n'y a pas de médecin dans le studio, on n'est pas à priorité santé, mais on essaye de s'interroger sur la modification de nos habitudes alimentaires. Et bien sûr, on attend vos témoignages. Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et puis dans le studio, des réponses aussi qui gouvernent nos habitudes alimentaires. Et puis tous vos messages sur Facebook et sur Twitter.
Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Sugar.
Sucre qui aide la méthyle à couler, ça vous rend la vie plus belle.
7 milliards de voisins pour se parler.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'Adrien. Adrien a 25 ans, 1m80, silhouette élancée. Bref, c'est un jeune qui n'a aucun problème de santé. Et pourtant, il fait partie de cette minorité qui s'interroge désormais. Il a arrêté le sucre pendant plus d'un an. Raphaël Constant, notre reporter, l'a suivi dans un supermarché à Paris pour décrypter avec lui les mécanismes de l'industrie agroalimentaire qui nous habitue à aimer le sucre.
Alors en fait, j'ai arrêté le sucre parce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas manger un bonbon. C'était pas possible, il fallait que je mange le paquet entier. Il y avait tout le temps du soda chez moi, tout le temps des biscuits. Et donc voilà, j'ai voulu essayer d'arrêter le sucre juste au début pendant un mois pour voir ce que ça allait faire, et j'ai fini par arrêter le sucre, ouais, plus d'un an.
Et vous dites que vous pouviez pas manger un seul bonbon, ça veut dire qu'il y avait un effet d'addiction en fait au sucre?
Complètement, mais en fait ça nous paraît tellement normal qu'on s'en rend même pas compte jusqu'au jour où on essaye d'arrêter le sucre, et au bout d'une semaine en fait on s'aperçoit que c'est l'enfer, parce que c'est, on a vraiment un besoin physiologique de sucre, c'est vraiment très désagréable. Et là on se dit, ah ouais, en fait je suis vraiment addict. Et addict, c'est pas un mot exagéré, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on arrête le sucre.
Parce qu'en fait le sucre c'est petit à petit inséré dans nos assiettes et dans tout ce qu'on peut acheter, notamment dans un supermarché.
On se dit, bah ça va être simple, en fait je vais enlever juste les sucres ajoutés, etc. Puis quand on fait les courses, quand on commence à regarder, on se dit, mais enfin c'est pas possible, il y en a absolument partout. Je peux plus acheter du jambon sans qu'il y ait du sucre dedans, des lardons, des sauces, etc. Donc en fait, la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à repérer sur les étiquettes. C'est pas si évident que ça, surtout au début. Parce que, en fait, on s'aperçoit que le sucre a vraiment énormément de noms. Ça peut être du sirop de glucose, ça peut être du dextrose, maltodextrine, ce genre de choses. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de noms de sucre. Les industriels savent très bien que les gens, même s'ils s'intéressent à ça, vont pas apprendre par cœur 40 ou 50 noms d'ingrédients pour être sûr de ne pas manger du sucre. Donc c'est très compliqué.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple ?
Alors ici, par exemple, donc dans les plats préparés...
C'est un couscous oriental tout préparé, tout fait.
Voilà, tout préparé. Et donc on a vu ici sur le devant, seulement 1,8% de matière grasse. Donc c'est ça un peu l'argument de vente, j'imagine, pour dire qu'il y a moins de calories. Et en fait, quand on regarde les ingrédients...
Au dos de la barquette.
Bon, ça arrive un peu loin, c'est sûr, mais il y a sucre ici et sucre à la fin. Donc voilà, il y a plusieurs sucres dans ce plat-là.
Parce que là, par exemple, sur cette barquette de couscous, quand on la retourne, on voit qu'il y a presque 2 grammes de sucre. Ce qui paraît pas énorme, mais ce qui peut être étonnant dans un couscous à base de semoule et de légumes.
Pendant très longtemps, on a diabolisé les matières grasses. Ce qui a permis au sucre de faire sa place. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les plats qui se disent très pauvres en matière grasse, on a compensé le manque de matière grasse avec du sucre. Je ne suis pas sûr que les gens se rendent forcément compte qu'il y a autant de sucre dans les plats qu'ils prennent, ou même quand on pense faire un plat maison presque avec quelques ingrédients du marché et qu'on rajoute de la sauce du supermarché, ben, il y a du sucre dedans. Quand j'ai commencé à arrêter le sucre et quand j'en ai parlé autour de moi, je me suis aperçu que les gens n'étaient pas au courant ou alors ils s'en foutaient, quoi, parce que ça leur paraissait pas important. Alors là, on a un autre exemple, donc c'est les barres céréales. Et là, donc, évidemment, il y a du sucre dedans, mais ce qu'on peut peut-être regarder, c'est pour 100 grammes, il y a 68 grammes de glucides, dont 27 grammes de sucre. C'est assez énorme. Donc il y a du sucre, ici sucre encore, sirop de glucose, fructose. Dans chaque ingrédient qui compose la barre, il y a du sucre ajouté.
Énorme. Et ce qui est étonnant, c'est que devant le paquet de cette barre de céréales, on a une petite étiquette bleue qui nous donne le nombre de calories et le pourcentage de sucre qu'il y a dans la barre.
Ça représente 4% des besoins journaliers dans une barre. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais c'est aussi une façon de maquiller le fait qu'il y a du sucre ajouté. On va plus se concentrer sur les calories pour vous dire, bah, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de calories. Alors qu'en fait, ces calories-là, ce sont des calories vides vu que c'est que du sucre.
On voit écrit 4%, mais en fait, c'est 4% des apports journalier qu'un adulte devrait consommer en fait.
Ouais, ouais, c'est ça.
On donne même pas le vrai chiffre du sucre à l'avant de la boîte. Est-ce qu'il existe alors une vraie addiction au goût du sucre ?
C'est un cercle vicieux quelque part. On a commencé à ajouter du sucre, petit à petit on s'y habituait, donc les industriels se sont aperçus qu'en fait si on mettait pas assez de sucre, bah, on trouverait ça trop amer ou pas assez sucré. C'est rentré dans nos modes de consommation parce que le sucre amenant le sucre, on a beaucoup plus de petites fringales, donc on va prendre beaucoup plus d'encas, les encas ils sont sucrés et ainsi de suite en fait. Il y a un effet boule de neige qui s'arrête jamais. En fait on s'en défait, moi ça m'a pris un mois, on retrouve un goût sain presque du sucre, dans le sens où on va manger une pomme, on va se dire d'un coup, waouh, en fait c'est vachement sucré une pomme et ça me suffit. Et je me suis mis aussi à manger du chocolat 100%, alors qu'avant je trouvais ça absolument affreux et trop amer. Au bout d'un certain temps, on se dit non, en fait ça peut s'apprécier aussi de cette manière-là, ou même le café sans sucre, ce genre de choses. Au début c'est très dur, mais en fait on s'y fait.
Bernard Pellegrin et Alexandre Villegrin, vous êtes tous les deux en studio. Alexandre Villegrin, j'aimerais déjà que vous nous disiez, à l'écoute de ce reportage, de ce témoignage, comment vous vivez, vous, en tant qu'agro-industriel, cette époque de défiance alimentaire généralisée, défiance envers les pesticides, envers la viande, envers le sucre, envers le gluten, les scandales alimentaires variés aussi, notamment tout récemment le scandale alimentaire du lait. Comment vous vivez ça, vous votre vie est devenue un enfer ou pas?
D'abord, premièrement, dans l'agro-industrie, il y a des gens qui sont responsables. Il n'y a pas que des irresponsables. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut s'adapter. Si les gens ont une défiance vis-à-vis d'un certain nombre de produits, il faut que l'industrie l'agro-industrie
s'adapte.
Et vous
produisez du sucre essentiellement. Quand vous entendez ce genre de témoignage, ça vous inquiète ou pas?
Alors, d'abord, on produit du sucre, la Somlia, je suis le PDG, produit de A à Z du sucre dans tous les pays d'Afrique centrale, excepté la Guinée, et en Côte d'Ivoire, du côté de Ferquet. Alors, le reportage, comme j'écoute de temps en temps votre émission, je pense que beaucoup des auditeurs africains ne se connaîtrait pas dans le monsieur qui a parlé des plats cuisinés, des barres chocolatées et d'un certain nombre de produits qui, pour l'instant, ne sont pas le quotidien de la plupart de
nous. L'alimentation transformée gagne du terrain de manière extrêmement rapide sur le continent subsaharien. Il suffit de se promener dans les rues de Dakar, il n'y a que des affiches d'aliments transformés, pratiquement dans les publicités.
Oui, mais enfin, vous, par exemple sur le sucre, on vend encore beaucoup de sucre. Si vous voulez, grosso modo, et je pense que monsieur, vous serez d'accord avec moi, si vous voulez, dans les pays développés, le sucre, c'est entre 40 et 45 kilos par an et par habitant. Bon. On est très loin de ces chiffres-là sur le continent africain. On est aux alentours de 12 kilos par an et par habitant. En sachant que, quel que soit le continent...
Vous comptez les boissons sucrées aussi?
Absolument, y compris, parce que c'est ça. On sait à peu près bien, on sait très bien combien consomme...
Puisque vous savez combien vous vendez en matières premières.
Exactement, et on sait...
Donc vous faites le ratio par habitant.
Il y a des droits à l'importation et ainsi de suite. Et je voudrais juste terminer le raisonnement. Donc on sait à peu près. Et on sait à peu près combien consomme dans le monde entier, on consomme, vous me contredirez peut-être, mais 7 à 8 kilos de sucre tel qu'on le connaît, c'est-à-dire tel qu'on le voit. Et ce chiffre-là est le même en Afrique qu'aux États-Unis qu'en Europe. Et donc le reste, la différence entre les
7
kilos,
c'est
le sucre caché, c'est le sucre qui est dans le Coca-Cola, c'est le sucre qui est dans beaucoup de produits, dans tous les produits. Enfin voilà.
Alors
justement, ça.
J'allais vous poser la question, Bernard Pellegrin, puisque vous signez cette enquête sucre, enquête sur l'autre poudre. Le sucre est partout, mais dans quelle mesure la consommation de sucre a vraiment augmenté? Et depuis quand finalement?
Alors on peut donner trois dates, allez. La première date, ce serait aux alentours du tournant entre le 19e et le 20e siècle. En 1900, un ouvrier parisien consommait 2 morceaux de sucre par jour, essentiellement pour mettre dans son café le matin. D'ailleurs, ce n'était pas des morceaux, c'était un petit bout d'un pain de sucre. La deuxième date, c'est le jour où, au milieu des années 50, la chaîne McDonald's a décidé de vendre du Coca-Cola pour boire avec ses hamburgers. Et la troisième date, c'est le jour où une célèbre marque italienne de pâtes à tartiner aux noisettes, si vous voyez ce que je veux dire, s'est lancée en grand sur le marché de cette pâte à tartiner. Voilà, ça c'est trois dates qui racontent un petit peu l'évolution lente au début du XXe siècle, d'abord parce que le sucre est assez cher, et ensuite de ça il n'est pas dans les habitudes. Le sucre pour un ouvrier parisien, pour reprendre mon exemple, c'est quelque chose qu'on consomme les jours de fête,
oui. Hein,
pour le mariage, pour la communion,
voilà, à l'époque,
etc.
L'ouvrier parisien, il est en dessous d'ailleurs des apports tolérés par la santé, finalement, avec 2 morceaux de sucre. Aujourd'hui,
oui, enfin, la question ne se pose même pas, parce qu'on ne mesure pas à l'époque quel est le taux qu'il faut pour être en bonne santé. Mais surtout, le sucre est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'encore une fois, lié à des desserts, à des moments un peu exceptionnels. Et puis, au fur et à mesure où l'industrie agroalimentaire s'installe, d'abord aux États-Unis évidemment, et puis ensuite de ça un peu partout, notamment en Europe de l'Ouest, mais principalement aussi à cause des entreprises américaines qui s'implantent mondialement, la consommation de sucre explose, et elle explose notamment à la faveur des 2 produits, en tout cas du Coca-Cola c'est sûr, et des sodas que je viens de citer.
Alexandre Vilgrain, mais pourquoi finalement le sucre est devenu si présent dans les produits transformés? Quel est l'intérêt des industriels en fait, de mettre du sucre partout, aussi bien dans une sauce tomate que dans un plat préparé?
Je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui poser cette question-là, parce que moi je fais du sucre, donc je ne fais pas des produits, j'ai mes clients. Donc
sûr,
ne me demandez pas de critiquer mes clients.
Non,
je pense que la question...
C'est une question
viendrait...
tout à fait neutre.
Oui, enfin, je préférerais que vous répondiez, mon cher...
Alors, écoutez, la principale raison qu'on avance en général, c'est parce que le sucre, comme beaucoup d'autres choses, et comme beaucoup d'autres choses qui, surconsommées, nous empoisonnent, c'est un exauceur de goût. C'est-à-dire que le sucre, comme le sel, comme la matière grasse, permet de magnifier le goût d'un aliment préparé.
C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, d'ailleurs, dans la cuisine marocaine, hein, qui mêle le sucré et le salé et qui met bien en valeur la viande de l'agneau dans les tagines qui sont sucrées-salées, par exemple. Hein,
oui, mais là, on est dans une cuisine extrêmement artisanale, donc on n'est pas du tout dans le même laboratoire, oui, entre guillemets, que l'industrie agroalimentaire. Donc, exhausteur de goût, ça conserve aussi les couleurs, ça permet de les magnifier. C'est un agent de texture, c'est un liant. Donc, d'un point de vue presque chimique, il a énormément d'avantages pour l'agroalimentaire.
Finalement, Alexandre Vilgrain, alors vous ne souhaitiez pas répondre à la question, mais néanmoins, vous avez bien vu, au fil des années, la demande augmenter, même si, encore une fois, vous nous le disiez sur le continent africain, vous semblez dire que le continent africain, évidemment, est très en retard dans sa consommation de sucre.
Absolument, il est en retard. Alors, d'abord, premièrement, le continent a commencé à développer sa propre production de sucre pour éviter d'être dépendant des autres continents, qui étaient le continent européen, puis après le continent sud-américain avec le Brésil qui est extrêmement puissant et important.
Mais c'était donc surtout une industrie de matières premières, donc oui, pour l'exporter. Hein.
Absolument, mais si vous voulez, non, on exportait, alors si vous voulez, le sucre qui est produit, l'Afrique ne produit pas assez de sucre. Elle est en déficit.
Par rapport à ce qu'elle consomme.
Par rapport à ce qu'elle consomme, elle est en déficit, je crois, de 3 ou 4 millions de tonnes.
Donc l'Afrique importe du sucre.
Importe du sucre du Brésil et de l'Europe. Et de l'Europe, bien entendu.
Le Brésil
sont les deux producteurs.
Qui est le premier producteur mondial.
Et le deuxième étant l'Europe, un peu avec la Thaïlande. La Thaïlande maintenant. Donc, bien entendu.
En Europe, c'est la France, hein.
Avec, oui, absolument.
Avec sa canne à sucre des territoires d'outre-mer.
Non,
plus la betterave. Voilà, et bien sûr la betterave.
Et l'Allemagne aussi.
L'Allemagne aussi, parce que les deux grands groupes sucriers allemands sont. Enfin, les deux grands groupes sucriers européens sont.
Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que l'Afrique manque de sucre.
Alors, si vous voulez, après, je pense qu'on est d'accord sur une chose, c'est que le sucre, comme disent, est par trop pas cher. Et ce pas cher fait que effectivement, on en consomme beaucoup. Et ça devient un aliment de base, ce qu'il n'était pas au départ. C'est clair que quand, si vous voulez, nous avons aujourd'hui des importations du Brésil ou de l'Europe avec un cours mondial qui est extrêmement faible, parce qu'aujourd'hui on est aux alentours de $350 la tonne, donc c'est clair que, et qui n'a rien à voir avec un prix de revient où que ce soit dans le monde, c'est clair que nous avons à faire un.
Pourquoi le cours est extrêmement bas d'ailleurs, alors que justement on n'arrête pas de dire que la demande de sucre augmente via les industriels et donc au bout de la chaîne via le consommateur final. Étonnant.
Le sucre est pas cher parce que vous avez un marché mondial qui est un marché de surplus comme beaucoup, pour beaucoup de produits. Le Brésil en produit beaucoup plus qu'il n'en consomme. L'Europe en produit beaucoup plus qu'il n'en consomme. La Thaïlande aussi. Et donc tout ça vient se déverser sur le marché d'export. Et ils se battent les uns avec les autres. Et notamment maintenant, plus un nouveau joueur vient d'apparaître sur le marché mondial, c'est l'Europe, puisque la fin des quotas fait en sorte que, vous êtes d'accord, l'Europe va redéverser des excédents pas chers.
Oui. Alors, la situation pourrait bouger un peu, parce qu'il y a quand même des grands émergents, comme on dit, et je pense en premier à la Chine, évidemment, 1,2 milliard d'habitants, qui s'est mis à consommer du sucre, denrée qui était absolument absente.
Ouais. Absente. Tout à fait. On va y revenir justement.
Du régime chinois.
Comment est-ce possible que des pays qui ne connaissaient pas l'alimentation sucrée à part, si ce n'est avec des fruits, comment a-t-on pu fabriquer des consommateurs en demande de sucre, et d'ailleurs y compris sur le continent africain? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On vous donne la parole juste après Oxmo Puccino.
Mon sucre s'oublie pas car il est pimenté. La plume ne s'usera pas car elle est cimentée. Les anciens déroulent le tapis rouge. Il y a des traces de ma voix sur des papyrus. Ils écrivent du soda, moi des whisky. Ils sont les biscottes, moi le biscuit. Les médisants envoyés chez vétérinaire. Je ne suis pas un de ces artistes intérimaires. Je vais faire me sous-titrer de traduction. Une qualité de la pire tradition. J'inspire l'Ontix, M et K, gaz, la conique, puis c'est d'un flot ultraponique. Le but, nous alimenter, alimenter. Il ne sait que prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète, mon sucre, il est pimenté, pimenté. Le but, nous alimenter, alimenter. Il ne sait que prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète, mon sucre, il est pimenté. Ton sucre il est bon, le mien il picote. Tu crois écrire enfoiré or tu tricotes. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. Ça manque d'or, de métaphores, de litotes. Quand je rentre en studio je n'ai pas d'amis. Si je t'y emmène dormir c'est sur un tatami. Ils sont fous cette bande de stylomanes. Dans la douceur, je deviens le siromane. Leurs jours passent en sablier. Chaque seconde, je retourne le sucrier. En effaçant les chansons swing-gum, je veux juste prendre le triple à celui qui me donne. Limenter, limenter. Prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète. Le sucre, il est pimenté, pimenté. Le but, nous alimenter, alimenter. Il ne sait que prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète. Le sucre, il est pimenté.
Le sucre pimenté Oxmo Puccino, vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Nous sommes en direct et nous parlons du sucre parce que c'est vrai, depuis quelques mois, ça ne vous a probablement pas échappé. Si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez les chaînes de télévision, de radio, etc., on a énormément de documentaires, d'enquêtes qui alarment sur les méfaits du sucre. Évidemment, c'est lié à l'augmentation extrêmement importante de diabète et d'obésité dans le monde. Mais comme nous, on ne s'occupe pas vraiment de la santé, mais plutôt des comportements alimentaires dans notre émission de société. On s'interroge, comment se fait-il que le consommateur consomme de plus en plus de sucre? S'agit-il essentiellement de sucre dont il ignore la présence dans son alimentation, ou bien y a-t-il réellement un désir accru de sucre? Et qu'est-ce que c'est que cette, finalement, cette civilisation du sucre dont on parle aujourd'hui? On en discute avec nos invités. On vous donne la parole au 33 1 84 22 71 71. Fatoumata nous appelle de Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Fatoumata, vous êtes une Française installée au Sénégal, hein, si j'ai bien compris.
Oui, bon là, actuellement je suis en France, mais je suis rentrée il n'y a pas longtemps du Sénégal, que je connais depuis 10 ans.
Vous y vivez depuis 10 ans, vous avez aussi voyagé toute votre vie pratiquement. Hein.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous constatez vous-même dans votre façon de consommer du sucre, et puis autour de vous surtout?
Alors, en ce qui me concerne, moi, je n'aime pas vraiment le sucre, sauf pour les fruits, des choses comme ça. J'aime pas vraiment le sucre. Enfin, je suis plus salée que sucrée, donc c'est pas un problème. Et autour de moi, je constate quand même que les gens abusent de sucre, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et notamment au Sénégal, où il y a une forte consommation de sucre pour le thé, le café, mais surtout le thé. Bon, moi, je trouve un peu ça déplorable parce que je connais des amis de mon mari qui ont des soucis de, comment on appelle cette maladie, de
diabète.
Diabète, voilà.
Quand vous parlez de surconsommation, qu'est-ce que vous voulez dire? Combien de morceaux de sucre dans un thé, par exemple? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Écoutez. Bon, ici en France, je ne sais pas.
Mais au Sénégal, où vous vivez.
Au Sénégal, ça se mesure par cuillerée, hein, parce qu'ils achètent du sucre en poudre en général. Oui. Même dans les boutiques de la brousse où j'habite, c'est tous les jours que je vois des gens, surtout les anciens qui passent leur temps à boire du thé. Ils achètent tous les jours des petits paquets de sucre. Hein. C'est vrai qu'au Sénégal, il n'y a pas de dessert comme dans les pays du Maghreb.
C'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas vraiment de pâtisserie, on ne termine pas le repas avec une note sucrée, un dessert, alors finalement sur une journée.
Oui, mais sur une journée, vous voyez, il y a quand même des mauvaises habitudes que les adultes inculquent déjà aux enfants. C'est que pour le moindre comment dire, service rendu, on donne une petite pièce aux enfants et ils courent à la boutique.
Oui. Pour acheter des bonbons. La recette du Bissap, on met combien de morceaux de sucre dans un litre? Vous avez une idée?
Non, je n'ai pas d'idée, je le fais vraiment au pif. C'est vrai que je mets du sucre, mais la plupart du temps, avec mon mari, on boit du Bissap sans sucre.
Ouais. Alors bon, certains mettent quelques feuilles de menthe pour masquer parfois l'absence de sucre que pourraient déplorer d'autres. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Fatoumata. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Bernard Pellegrin, vous nous disiez, l'Afrique consomme très peu de sucre dans un pays comme le Sénégal. Alexandre Villegrin, l'Afrique consomme très peu de sucre, mais les auditeurs nous disent le contraire dans un pays comme le Sénégal.
Ah, ça, enfin, ils consomment beaucoup, les statistiques, non. Mais par exemple, dans le thé, oui, effectivement, qui n'a pas été dans boire un thé dans le désert, là où on dit, c'est beaucoup de sucre
Pas besoin d'être dans le désert pour sucrer.
Le thé, c'est pratiquement dans la bande sahélienne. Voilà. Dans le Bissap, on met pas tellement de sucre dans le Bissap parce qu'il faut qu'il y ait ce côté un peu. Mais il y a plein d'autres produits, on met du sucre. Mais vous parlez, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Le sucre, c'est quelque chose d'assez gai et de bon. Maintenant, après, que si on en abuse, ça soit très embêtant pour la santé. Tout le monde est d'accord. Donc, je veux dire, ça, c'est votre sujet.
Mais que l'abus arrive très vite.
Alors, justement.
Et puis, la maladie, même si on n'est pas dans une émission de santé, il faut en toucher un mot, la maladie est là quand même. C'est-à-dire qu'on sait bien, en regardant les chiffres, que le diabète explose, que l'obésité explose. Et puis, on sait, par exemple, que les cellules cancéreuses adorent le sucre. On sait beaucoup de choses. On sait qu'il y a aujourd'hui une maladie qui est liée à l'abus de sucre, qui s'appelle la maladie du foie gras, qui n'a rien à voir avec ce qu'on mange pour les fêtes de fin d'année, mais qui a beaucoup à voir avec une sorte de cirrhose qui n'est pas provoquée par l'alcool, mais qui est provoquée par le sucre,
par les boissons sucrées. C'est la maladie des boissons sodas, et Priorité Santé a consacré une émission d'ailleurs à ce sujet.
Il faut être très clair, on ne peut pas vivre sans manger du sucre, ou plus exactement sans absorber des glucides. Le cerveau en a besoin, le corps en a besoin, ça c'est le préalable absolu à toute discussion sur le sucre. Une fois qu'on a dit ça, on parle de la surconsommation de sucre.
À partir de combien,
là, on va le redire? Pour l'OMS, à partir de 50 grammes. Mais en essayant, 50 grammes, c'est 10 morceaux de sucre, et l'OMS dit qu'il faudrait plutôt aller vers 25. Donc il y a énormément d'endroits dans le monde, y compris en France, mais à moindre, parce que nous on n'est pas très bec sucré finalement. Il y a énormément d'endroits dans le monde où on explose ce genre de consommation. Les Mexicains sont les recordman du monde d'absorption de soda, avec les Américains, mais en dehors des Américains. Voilà, on dit qu'un étudiant anglais boit une baignoire entière de soda par an. Enfin, il y a une surconsommation extraordinaire qui pousse évidemment à des dégâts.
Sur les aspects santé, je crois que les choses commencent à être effectivement très claires, qu'au-delà de, on va dire, 9-10 morceaux de sucre pour les hommes, un peu moins d'ailleurs pour les femmes, ça devient très problématique pour la santé. Juste d'ailleurs, vous l'expliquez bien dans votre livre, dans un yaourt aux fruits, il y a déjà 3 morceaux de sucre. Hein, donc ça va quand même assez vite.
Dans
au fil de la journée, ça va très vite.
Dans une canette de soda ordinaire, c'est autour de 7-8 morceaux de sucre.
Donc un yaourt et un soda, et c'est terminé.
Et
on
c'est
a
terminé.
Explosé son quota. Comment les lobbies du sucre, Bernard Pellegrin, sont parvenus à modifier des comportements alimentaires en quelques années, alors qu'on dit que les comportements alimentaires, justement, c'est très long à modifier parce que c'est lié à la culture. Pour parler du sucre qui s'est installé en Asie, et puis qui s'installe aussi, il faut bien le dire, dans des pays d'Afrique subsaharienne, très clairement.
Alors, il faudrait remonter un peu en arrière et raconter surtout ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a dans les années 50 un lobby extrêmement puissant qui est celui du tabac. Le lobby du tabac organise la consommation de tabac, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, il apparaît de plus en plus difficile de tenir l'idée que fumer, c'est bon pour la santé. Donc, ce lobby déserte un petit peu le produit tabac et se met au service de l'industrie agroalimentaire et sucrière. Et puis là, il y a une sorte de bras de fer. Alors c'est à gros traits hein, ce que je vous raconte. Mais il y a une sorte de bras de fer entre le lobby du sucre et le lobby des matières grasses. Et le lobby du sucre, quelque part, remporte la partie. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'idée qu'on grossit, on devient obèse, on a des problèmes à cause des matières grasses, s'installe absolument et définitivement. Or, la réalité, prouvée à travers de multiples enquêtes, notamment de plusieurs journalistes du New York Times, c'est que le lobby du sucre a payé des études scientifiques pour installer cette idée, à savoir que la matière grasse était responsable de tout et le sucre de rien. Alors qu'évidemment, le sucre est pour quelque chose et le mélange des deux encore plus.
Ça fait effectivement plus de 25 ans maintenant qu'on a sur les yaourts aux États-Unis fat-free, c'est-à-dire sans matière grasse, et que c'est bien précisé. Et pour le sucre, c'est beaucoup plus compliqué. Vous écoutez 7 milliards de voisins et on discute de la place du sucre dans notre alimentation. Aujourd'hui, sommes-nous manipulés ?
7 milliards de voisins.
Et si on faisait une pause cuisine ?
D'accord. Alors on se retrouve aujourd'hui avec la recette de la tarte au sucre. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une tarte briochée avec une garniture au sucre. Un vrai délice.
Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe.
C'est parti ! On aura besoin de 430 g de sucre, de sirop de maïs ou de glucose, une cuillerée à café de sucre, 88 g de sucre et du sucre et du colorant bleu.
Tu m'en donnes encore ?
Alors, on essaye de comprendre comment le sucre s'est installé dans nos habitudes alimentaires, y compris dans des pays où le sucre n'était pas présent historiquement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Pour tout ce qui est sucre, c'est moi l'expert.
Pour 100 rats testés, on va dire, on a à peu près 80 à 90 rats qui se détournent de la cocaïne pour boire l'eau sucrée.
Le sucre serait aussi addictif que la cocaïne. Serge Hamed est l'un des premiers à l'écrire, d'autres scientifiques le confirment depuis. D'après ses travaux, tout se passe comme si le sucre titillait délicieusement les neurones de la récompense et de la motivation dans notre cerveau. Chaque prise de sucre libère de la dopamine, exactement ce qui se produit quand on prend de la drogue. Nos enfants seraient-ils tous des toxicos? Eux qui en mangent en moyenne 100 grammes par jour, l'équivalent d'une vingtaine de petits carrés de sucre.
Le sucre, le plus petit des grands plaisirs.
Bernard Pellegrin, qui est Serge Hamed qu'on entendait là dans l'extrait de Cache Investigation, une émission d'enquête diffusée sur France 2 à la télévision?
Alors Serge Hamed, c'est un chercheur, addictologue, qui travaille à Bordeaux pour le CNRS, que j'ai longuement interrogé pour ce livre, et qui travaillait il y a une bonne dizaine d'années maintenant sur les phénomènes d'addiction à la cocaïne et à l'héroïne, donc aux drogues dures. Et il faisait ça avec des souris de laboratoire à qui il proposait une eau cocaïnée, on va dire. Et puis un jour, parce que c'est un scientifique, il s'est dit qu'il fallait quand même leur proposer un autre choix pour montrer qu'il y avait une préférence. Et donc son choix s'est porté sur l'eau sucrée et les souris n'ont fait ni une ni deux, elles ont préféré l'eau sucrée.
Alors évidemment, si c'était si simple en même temps, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, pour sevrer les cocaïnomanes, on pourrait proposer
de l'eau sucrée,
un peu de soda.
Oui, alors ça se passe pas exactement comme ça. L'intérêt, c'est que cette expérience a été faite une fois, 10 fois, 100 fois, par son laboratoire, par d'autres laboratoires, et que à chaque fois, le résultat a été à peu près le même. Alors, cette étude, elle est contestée par un certain nombre de gens qui disent l'addiction, c'est pas ça. Sauf que le mécanisme décrit d'un point de vue purement médical, c'est exactement le même, comme vient de le rappeler votre reportage. Et puis qu'on sait maintenant que l'addiction, ça se définit par d'autres critères que le simple recours en panique absolue du drogué pour sa drogue.
Ça peut être juste une recherche de la récompense, finalement.
Voilà,
hein, dans le cerveau.
On sait qu'il y a des addictions au travail, qu'il y a des addictions au sport, qu'il y a des addictions même à l'eau. Et donc, l'addiction est un phénomène dont la description a été de plus en plus précisée, et le sucre entre parfaitement dans cette catégorie.
Quand vous comparez le sucre au tabac, à la drogue ou même à l'alcool, alors que le sucre est d'abord un aliment de base, hein, et important pour l'alimentation, est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Parce que c'est ce que vous reproche l'industrie du sucre, d'ailleurs. Le Césus vous a intenté un procès en justice.
Qu'il a perdu.
Néanmoins, vous les avez attaqué en retour parce qu'ils vous avaient attaqué,
pas du tout,
non,
pas
il
du
me semble-t-il.
Tout. Ah, pas du tout.
Enfin
pas
bon,
du tout.
En tout cas, vous, voilà.
Non, soyons précis. Le CEDUS, qui est le lobby du sucre en France, qui représente les intérêts des producteurs de sucre, essentiellement les betteraviers, avait attaqué mon livre et son éditeur pour diffamation, injure et discrimination à l'égard du sucre, ce qui est déjà un petit peu particulier comme motif. Assignation en référé perdue, assignation sur le fond perdue aussi.
Ouais. Donc, néanmoins, est-ce que vous n'allez quand même pas, est-ce que c'est vraiment honnête de comparer le sucre à, finalement, à une drogue?
La question n'est pas celle de l'honnêteté, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le mécanisme en jeu. Le mécanisme en jeu, les scientifiques en sont certains, c'est le même. Alors, il y a addiction et addiction. Évidemment, mais quelque part, être addict au sucre, tout le monde l'a ressenti un jour ou l'autre. Votre premier reportage le disait très bien. On arrête de manger du sucre. Dans les jours qui suivent, on a une vraie envie de manger du sucre et qu'on satisfait éventuellement en chapardant un bout de chocolat, un truc dans le frigo, dans le placard. Évidemment, les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes. Quoique, puisqu'aussi bien, on l'indiquait tout à l'heure, on sait que le sucre est quand même en grande partie à l'origine de l'explosion du diabète de type 2, et que ce diabète de type 2 est gravissime.
Alexandre Villegrin, quand vous entendez ça, des accusations proférées tout de même assez graves, il y a maintenant clairement un lobby anti-sucre frontal en face du lobby du sucre dont vous faites partie forcément, hein, en tant qu'un agro-industriel producteur
Non, mais j'ai voulu, je trouve, de me transformer en Pablo Escobar de l'Afrique centrale, je pense pas que ça soit, si vous voulez, comme vous l'avez dit Bernard, on peut être addict à beaucoup de choses.
et pas forcément sur un process. Donc, je crois que c'est un peu
vache. On est dans des sociétés addictives aujourd'hui,
d'abord,
de toute façon.
Premièrement, on est addictif à la radio. Moi, je suis addictif à RFI. Quand je suis en Afrique. RFI, j'en sais rien. C'est à RFI de le prouver.
On enregistre, on va vous utiliser pour faire des pubs. Bernard,
je trouve que c'est un peu vache. Et c'est un peu vache pour plein de raisons, c'est-à-dire que je comprends très bien, je veux dire, alors, puisque...
Mais plus sérieusement, ça vous inquiète ou pas ce déficit d'image ?
Non, ça m'inquiète pas, parce qu'on n'en est pas assez. Je constate simplement, si vous voulez, c'est que clairement, quand on arrive à 40 kilos par an et par habitant, il y a un vrai problème de santé publique. Ça, c'est vrai, c'est constaté, et les sucriers en sont conscients. Je veux dire, c'est un problème d'État, de taxation, d'un certain nombre de choses. Ça, c'est vrai. On n'en est pas là, aujourd'hui, sur le continent africain, loin s'en faut. Par contre, il est évident qu'il faut sensibiliser, et je suis sucrier, et je pense qu'il y a quelque chose à faire.
Et vous produisez, vous commercialisez sur le continent africain,
Continent
PDG
africain.
Du groupe Somdia.
Et nous ne produisons pas assez pour le marché aujourd'hui. Donc les pays importent, malheureusement, en payant pas forcément les taxes, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il faut trouver les voies et les moyens. Je pense que ce livre peut aider à faire que les gouvernements commencent à dire... Bah peut-être que pour telle et telle raison, on pourrait limiter la consommation de sucre, on pourrait limiter un certain nombre de choses, mais c'est difficile pour des pays qui sont en voie de développement de les empêcher de se développer à la même chose que nous. Donc il faut trouver des arguments, à mon avis, différents de ce que... je pense que l'argument de santé me paraît le plus important, et pas l'argument sur le tabac et la drogue qui me paraissent effectivement trop violents.
Vous restez avec nous, 7 milliards de voisins, on parle du sucre. Quelle solution pour limiter la consommation du sucre? Et puis surtout, s'interroger aussi sur la relation que nous avons avec cette denrée de première nécessité. Continue sur chez 7 milliards de voisins sur RFI pendant qu'on écoute Balogi, Soleil de Volt. Ça n'arrête pas dans notre studio. Forcément, on discute du sucre avec vous, Bernard Pellegrin. Vous publiez Sucre, une enquête sur l'autre poudre. Évidemment, une enquête à charge contre la surconsommation de sucre et non pas la consommation normale recommandée par l'OMS, à savoir, on va le redire, moins de 10 morceaux de sucre par jour, ce qui est en réalité très difficile de se tenir à ces 10 morceaux de sucre par jour. Surtout si on boit vaguement une boisson sucrée chaque jour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bernard Pellegrin, vous publiez une enquête à charge sur le sucre. Vous avez mis un sucre dans votre café, si je ne m'abuse. Et vous, Alexandre Villegrain, vous êtes producteur de sucre, PDG du groupe français Somdia. Vous ne mettez pas de sucre dans votre café?
Pas tout le temps. Mais là, ce matin, j'en ai pas mis. Mais
c'était pourquoi un peu pas tout le temps, d'ailleurs?
C'est parce que Bernard en a pris, donc moi, je me suis dit, j'en prends pas.
Mais il y a une chose qui me paraît très bonne à souligner, c'est que le sucre, c'est pas forcément... une chose sucrée au sens où on l'entend. La plupart des diététiciens aujourd'hui disent par exemple qu'une très bonne manière de manger, de consommer du sucre bon pour l'organisme, c'est de manger beaucoup de légumineuses. Alors c'est quoi les légumineuses ? Eh ben c'est des choses comme les fèves, comme les pois chiches, comme les lentilles, qui contiennent énormément de sucre complexe, et non pas de sucre simple, comme les sodas, et en mangeant par exemple, régulièrement ce type de fèves, de pois cassés, etc., on satisfait parfaitement l'apport en glucides.
Ouais, et si on supprime les sodas, on peut se permettre le luxe de mettre un bon sucre de canne dans son café, c'est ça finalement aussi.
Mais vous savez, le vrai sujet, c'est le sucre caché. Quand
alors,
même, hein,
on est
c'est
bien
pas
d'accord,
sucre,
vous l'avez bien expliqué depuis le début.
C'est le sucre caché.
Le sucre caché qui, rappelons-le, en termes de consommation, en proportion...
Il y a cette fameuse phrase que j'entendais dans votre reportage qui est « si on enlève le sucre caché des rayons d'un supermarché, il reste 20 à 25% des produits sur le linéaire ». Voilà,
c'est, on est autour de ça. Moi, j'ai fait une petite étude. Entre autres, de l'enquête australienne, me semble-t-il, Sugarland, en tout cas.
Non, mais bien avant même. J'ai fait une petite étude sur un supermarché à côté de chez moi, il y en a absolument partout.
Parlons des solutions. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez aux taxes soda? Quand Alexandre Villegrain, vous nous dites, est-ce que effectivement il faut qu'il y ait une prise de conscience? En même temps, vous nous avez dit en début d'émission, vous en tant qu'agro-industriel, le sucre, on est inondé, ça coûte pas cher à produire, on est en surconsommation par rapport à la surproduction. Pardon, on est en surproduction par rapport à la demande mondiale. Alors qu'en même temps, tout le monde dit on consomme trop de sucre. On se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce sucre écoulé?
Mais je pense
que vous avez besoin d'écouler. On est mal parti quand même quand on vous écoute.
En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est le continent africain. C'est plus celui-là que les autres. À la limite, si je vous écoute, finalement, l'Europe, les États-Unis, un certain nombre de pays, c'est un peu tard. Quoi. Ils sont déjà très, très.
Vous êtes
très gros consommateur.
Vous souhaitez que l'Afrique arrive dans les mêmes types de consommation de sucre?
Le problème,
que
c'est que
les États-Unis,
l'Afrique
c'est ce qui arrangerait vos affaires finalement.
Non, pas du tout, parce que d'abord, ça demande de la terre et on n'en a pas forcément à utiliser pour faire de la canne à sucre. Ça demande des investissements considérables et donc probablement il faudra suivre le marché, mais en tout état de cause. Pas
c'est
au
vous
niveau...
qui suivez le marché, vous voulez dire, c'est vous qui suivez la demande?
Oui, mais qu'on suit la demande, mais pas au niveau de 35 à 40 kilos par habitant. Ça, entre le moment, si vous voulez,
le monde occidental.
Vous êtes bien placé ici à RFI pour savoir que le taux de natalité en Afrique va passer de 2 milliards à 5 milliards d'habitants d'ici 2020. Donc, s'ils consomment ces 5 milliards d'habitants ou ces 4 milliards et demi d'habitants, 30 kilos par an ou 35 ou 40 kilos de sucre par an et par habitant.
Vous ne pourriez pas fournir.
Et on ne pourra pas fournir de toute façon. Donc, le vrai sujet, et je pense qu'en Chine, c'est un peu pareil. Si la Chine, je ne sais pas, si la Chine se mettait à consommer 30, 35, 40 kilos par habitant, on réglerait très vite le problème des excédents et à ce moment-là, le prix monterait. Et à ce moment-là, probablement, la consommation baisserait.
Donc, vous êtes en train de nous dire que finalement, l'industrie agroalimentaire du sucre en Afrique ne peut pas être soupçonnée d'une.
Quelconque
désir d'augmentation de la
consommation.
On
n'a pas forcément les moyens d'avoir.
Vous, c'est la natalité qui va faire votre business dans les années à venir.
Exactement. Et d'abord, et deuxièmement, si vous voulez, on est loin d'être. On en a discuté tout à l'heure. Bien sûr que l'Afrique, elle veut se développer. Bien sûr qu'elle veut des biscuits, elle veut faire des biscuits, elle veut faire des jus de fruits comme nous, comme elle veut des yaourts. Et c'est normal. Je veux dire, on est un exemple de consommation.
Non, aujourd'hui, on est justement le mauvais exemple.
Alors,
c'est ce que
si
vous...
on est un mauvais exemple,
il
faut le dire.
C'est ce que vous démontrez, Bernard Pellegrin.
Mais il faudrait un peu nuancer les choses parce qu'en fait, aussi bien l'Europe occidentale que les États-Unis sont plutôt sur un trend baissier en matière de consommation de sucre. C'est-à-dire que les consommateurs...
On est en train d'y revenir, quoi, en gros, hein. On est en train d'en revenir.
Oui,
pardon,
d'en revenir. C'est-à-dire que les consommateurs, tout de même informés, tout de même alertés, avec des chiffres sur la santé publique qui sont très alarmants, qui souvent émanent d'institutions parfaitement respectables comme l'OMS, commencent à modifier leur comportement alimentaire du sucre, comme d'ailleurs à l'égard d'autres produits, les matières grasses, le sel, etc. On en parlait tout à l'heure. Le vrai problème, ce sont les habitudes de consommation qui sont en train de s'installer dans d'autres... Alors, sans doute pas encore l'Afrique, mais en Asie, par exemple, il est très très clair que la plupart des pays asiatiques qui mangeaient très peu de sucre, comme ils consommaient très peu de lait, sont en train de passer à des modes de consommation de type occidental, où on surconsomme du sucre, on surconsomme du lait. En Thaïlande, par exemple, qui certes est un très gros producteur de sucre, aujourd'hui, j'ai une amie thaïlandaise qui me disait il y a peu de temps, on n'en mangeait pas. Aujourd'hui, quand des enfants mangent des pâtes en Thaïlande, les mères de famille mettent du sucre dessus.
Du sucre en poudre ?
En poudre,
directement
sur les pâtes alimentaires, oui, oui, oui. Donc, il y a une consommation augmentée de sucre dans les pays qui commencent à émerger fortement et qui, à cause beaucoup quand même de l'industrie agroalimentaire américaine, un peu européenne aussi, se mettent à consommer à la façon les Occidentaux.
Mais voilà. Mettre du sucre en poudre sur ses pâtes, on ne peut pas accuser l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas l'industrie agroalimentaire qui a donné l'idée aux mères de famille.
Non, bien sûr
de
que non. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que les Américains appellent la civilisation du sucre. C'est-à-dire que de plus en plus, le consommateur, alors moins en Europe qu'autrefois et plus en Asie qu'autrefois, privilégie ce goût sucré parce qu'il est flatteur, il est agréable, il est plaisant. Dans mon livre, j'ai une psychanalyste qui est spécialiste du traitement de l'obésité, le traitement psychologique et psychanalytique de l'obésité, et elle disait de façon un peu faussement naïve, on dit un bonbon, on ne dit pas un mauvais. Donc le bonbon, c'est dès l'enfance, le sucre, c'est dès l'enfance la récompense, et même elle, en tant que psychanalyste, elle va un peu plus loin, elle dit dès l'enfance, le sucre, c'est l'amour. C'est l'amour de la mère, c'est l'amour.
Aujourd'hui, il y a des pays qui testent des taxes soda, notamment
le Mexique. La France, notamment.
Voilà, certains États américains, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça donne ? Le Mexique, donc je le disais.
Ça fait baisser un peu la consommation, mais pas tant que ça. D'abord parce qu'on part de loin. Hein. En Mexique, le litre d'eau est plus cher que le litre de Coca-Cola. Hein. Donc, je rappelle quand même que l'ancien président mexicain était le PDG de Coca-Cola Mexique. Donc, voilà, c'est un pays qui est très largement intoxiqué au Coca-Cola, le Mexique. Donc, mais ça baisse un petit peu, ça c'est vrai. Et il faut continuer. Le problème, évidemment, c'est le sucre caché.
Oui,
mais dans Coca-Cola, le sucre, il n'est pas caché.
Il n'est pas caché, ouais. Exactement. Le sucre n'est pas caché dans le Coca-Cola. Là, on est tout à fait d'accord.
Ah bah bien sûr. Mais le sujet, c'est qu'il est caché dans plein d'autres choses, dans les fameux 80% de produits qui disparaissent du linéaire du supermarché si on enlève ce qui est sucré.
Si on revient à un pays comme la France, qui est le pays de la gastronomie, comment est-ce qu'on peut passer, puisque là, on est dans une époque de défiance généralisée, hein, en Occident, mais pas seulement, par rapport à l'alimentation, je le disais en début d'émission, le gluten, la viande, les pesticides. Comment on peut passer d'une alimentation plaisir, d'une alimentation de la gastronomie, à une alimentation purement santé, comme on a l'impression que c'est en train de naître, en tout cas dans certains milieux les plus informés, mais pas seulement d'ailleurs. On en a parlé beaucoup pendant le salon de l'agriculture, c'est beaucoup plus large que ça aujourd'hui.
Vaste sujet. Ouais. Vous savez, il y a une chose qui est intéressante, c'est par exemple en France, on mesure l'obésité chez les enfants, les adolescents, hein, et notamment en fonction du milieu social d'où ils viennent. Et on pourrait s'imaginer que les enfants issus de milieux très favorisés sont ceux qui sont le moins touchés par l'obésité. La réalité, c'est que ceux qui sont le moins touchés par l'obésité, c'est les enfants d'enseignants. Donc pas des gens riches, mais des gens qui sont informés, effectivement, et qui savent dire à leurs enfants, je préférerais que tu manges une pomme comme dessert plutôt qu'une barre chocolatée, je préférerais que tu évites la pâte de noisette le matin, etc., etc. Donc c'est beaucoup, 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 dans les familles, une question d'information auprès des enfants, notamment.
Alexandre Villegrain, un mot de conclusion par rapport à tout ce qui peut vous guetter ou pas en tant qu'agro-industriel dans cette période tourmentée ?
Moi, je pense que si vous voulez, en tout cas sur le continent, le sucre est, en tout cas l'industrie sucrière, c'est d'abord une des rares industries qui produit de A à Z, ce qui n'est pas si souvent le cas sur ce continent, donc qui met une valeur qui a une valeur ajoutée certaine, qui fait vivre beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui sont
premier
plutôt
créateur d'emploi, le sucre après l'État, non, dans certains
dans
pays
dans un certain nombre
centrale.
De pays, absolument, et qui sont des gens formés. Et
la merci deuxième chose, à tous les deux, je suis désolée, il nous reste 15 secondes, il faut quand même que je dise au revoir aux auditeurs, et à demain.
Fini.
Merci à vous Alexandre Villegrain, Bernard Pellegrin, vous publiez Sucre, une enquête sur l'autre poudre, aux éditions Talendier. Merci d'être passé par le studio de RFI. Merci. Évidemment, l'émission est
merci
à réécouter.
À vous. Merci à vous.